France Inter.
À portée de voix.
À la maison, en voiture ou sur votre téléphone.
France Inter arrive sur les assistants vocaux.
Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles.
Oli et ses histoires pour les enfants.
Vos émissions en direct.
Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeux dangereux, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidoroff. La fiction d'aujourd'hui, intitulée Jeux dangereux, raconte l'histoire de Sabrina, une jeune lycéenne un peu timide et mal dans sa peau, une ado comme beaucoup d'autres. Pire, Sabrina est harcelée, humiliée dans sa classe et sur Facebook par le brillant Guillaume, que toute la classe admire et suit tout autant que dans un esprit grégaire, elle rejette Sabrina. Comble de malheur, même sa seule amie finira par la délaisser pour rejoindre les autres et tomber amoureuse de son bourreau. Pendant trop longtemps, Sabrina va se laisser couler, s'isoler. Alors, qui prévenir? Comment en parler sans en plus être traité de balance? Le harcèlement devient permanent, physique même. Le cauchemar s'installe. Des jeunes filles comme Sabrina sont nombreuses. Des garçons aussi sont harcelés, jusqu'à parfois des punitions physiques humiliantes, terribles. Un enfant sur 10 en moyenne a vécu des situations de harcèlement et de violence. Alors, et tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement? Un rapport de domination d'un ou plusieurs individus sur une victime? Un enfant maintenu volontairement par le groupe dans l'incapacité de se défendre et de pouvoir parler? La répétition de gestes violents et d'insultes sur une longue période? À quel moment de simples blagues peuvent-elles basculer en agression? Ces caractéristiques de harcèlement au milieu scolaire, ces questions que l'on n'ose pas poser aux responsables des établissements, eh bien nous allons les aborder ici, sans tabou, après la fiction, avec notre invitée, Magali Crochard, psychosociologue, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Sud.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Dangereux, de Nicole Sigal, une réalisation de Michel Sidoroff.
Bonjour maman.
Bonjour ma chérie, je fais des crêpes. T'en veux?
J'ai pas faim.
Mais tu manges pas assez en ce moment.
Qu'est-ce qu'elle a? Elle se remet à bégayer. Le mal d'amour, ça va passer. Faut manger de la salade amère 3 fois par jour, comme disait ma grand-mère.
Bonjour madame. Sabrina est là?
Elle vient de rentrer. Tu n'étais pas en cours avec elle?
Si, mais elle m'a pas attendue et j'ai pas eu le temps de lui rendre son exposé.
Monte, Mélina, je vous apporte des crêpes.
Ah, j'adore. Merci, madame.
Elle est gentille, cette Mélina. Ça me rassure qu'elle soit amie. Sabrina est tellement secrète et solitaire.
Tu pars déjà?
Oui, en fait, ma mère m'a appelée.
À bientôt, Mélina.
Ah, ces filles et leurs histoires. Plus moyen de savoir. Elle était si bavarde, petite.
Ouvre, ma chérie. Sabrina, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi!
Rien, maman.
Mais tu étais couchée déjà?
Je suis fatiguée.
Mange ça, tu ne vas pas t'endormir, le ventre vide.
Je
Ça passe pas.
Ma chérie, raconte-moi. C'est une histoire avec un garçon?
Non, rien. Ça va. Laisse-moi.
D'accord. Profites-en pour te coucher tôt. Et sans ton téléphone, s'il te plaît.
Ok.
Toujours connecté jour et nuit, c'est épuisant à la longue. Nous, on se parlait dans la cour du lycée. Maintenant, ils sont tous penchés sur leur téléphone. Des petits groupes de jeunes penchés, comme des vieillards.
C'est nul. Ça me va pas. Ça aussi, trop nul. Je suis grave moche. Avec ces cheveux là tout frisottés. En plus, j'ai des grosses cuisses. Je rentre plus dans ce pantalon. J'en ai marre.
Allô?
Lâche-moi. Je t'ai rien fait. Ma mère va entendre.
T'es trop conne.
Alors, pourquoi tu me lâches pas?
C'est juste parce que t'as l'air archi conne.
Arrête de me calculer.
Un vrai cassos sur cette photo. Je t'ai pas loupé, regarde. Toute la classe a liké. Sauf ta Mélina.
T'as pas le droit, c'est intime.
Oh, arrête de bader.
Tu me victimises.
T'as vu comment tu te fringues? Au fait, je l'ai pécho, ta Mélina.
Fake.
Je l'invite à mon manif demain. Tu viens?
Yes.
Non, tu sais pas t'ambiancer.
Je suis au bout de ma life.
Tu gères pas. Good night.
Guillaume, c'est celui que tout le monde aime. Toute la classe le suit. Il est beau et premier partout. Alors il en profite. Il dit qu'il veut être président ou acteur plus tard. Son père, il fait de la politique, il est très connu dans la région. Je comprends pas pourquoi il m'aime pas. Je veux tout le temps le savoir, mais à chaque fois que je lui demande, il me fait des remarques injurieuses. C'est injuste. Mais j'ai peur de lui répondre. Il a raison, je suis conne. En plus d'être timide et mal dans mon corps. Il se moque plus de moi quand je bégaye. Il s'est fait rappeler à l'ordre par les profs. Il est malin. Il fait attention à son image d'élève brillant et sympa.
Elle court. T'es toute seule?
Mélina avec les autres.
Je lui ai dit de ne plus te parler si elle veut venir à ma teuf.
Mélina, elle se laisse pas faire, j'ai confiance. Rends-moi mon classeur.
Si je la kiffe, elle fera tout ce que je veux.
Elle te kiffe pas, tu te la pètes trop. Rends-moi mon classeur.
Ouah, t'es encore déguisée en sapin de Noël ce matin.
Je suis nouvelle dans la classe. On a déménagé il y a 3 mois avec ma mère. Mes parents viennent de se séparer. Il m'a tout de suite rejetée sans prendre le temps de me connaître. C'est pas cool. Je lui demande pas de me kiffer, juste de me laisser tranquille. J'essaie de parler comme lui, pour qu'on soit potes, mais je le sens pas. Il fait semblant de parler Kaira alors qu'il est branché de chez branché. Il a lancé la mode dans la classe et tout le monde s'y est mis. Si je parle bien, je vais être encore plus exclue. Déjà qu'il aime pas qu'on soit ex aequo en sciences. Heureusement que j'ai Mélina. C'est ma seule amie. J'espère qu'elle va pas craquer pour lui, ce serait la fin.
Bonjour madame.
Allez vite, installe-toi Sabrina, t'es en retard.
Rends-moi mon classeur. Rends-moi mon classeur.
Qu'est-ce qui se passe Sabrina?
Rien, madame.
Bon, on se concentre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de la Terre dans le système solaire. Sabrina, tu rêves? Prends ton classeur.
Je l'ai oublié, madame.
Elle est sur une autre planète, madame.
Oui, Guillaume. Guillaume, c'est pas le moment de faire de l'humour. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mon meilleur élève qui dissipe toute la classe. Et qu'est-ce que vous avez ce matin?
C'est Guillaume qui lui a pris son classeur. Il a renversé son sac dans le couloir, madame, je l'ai vu.
Non, mais on se croirait à la maternelle. Vous réglerez ça après le cours. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les quatre planètes gazeuses?
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Très bien, Guillaume.
Tiens, Sabrina, je te donne des feuilles. Merci. J'en peux plus. Guillaume, il me pourrit la vie.
Et où sont-elles situées par rapport au Soleil?
Ces planètes gazeuses sont les plus éloignées du Soleil.
Très bien, Guillaume. Et j'aimerais entendre tes camarades aussi.
Arrête de penser à lui. Je peux pas. Il me lâche pas.
Bon, Mélina et Sabrina, sortez. Puisque vous avez tant de choses à vous raconter. Ma patience a des limites. Allez! Et revenez avec un billet du directeur.
On va pas chez le directeur, on va voir la psychologue. Elle a dit qu'on pouvait aller dans son bureau quand on a un problème.
Mais c'est de ma faute. Je suis trop timide, je sais pas me défendre.
Viens, tu verras, on peut tout lui dire et ça reste secret. Et plus besoin de billets du directeur pour retourner en cours.
J'ai peur.
De quoi?
De lui faire mal.
Tu le kiffes ou quoi?
Non. Et toi?
On est sortis ensemble. Ah, mais t'es toujours mon ami.
Laisse-moi.
C'est pas le bout de ta vie.
Si. T'es de son côté. Maintenant, j'ai plus personne.
Au contraire, je vais pouvoir lui dire qu'il arrête de te victimiser.
Je veux pas que tu t'en mêles. Après, ça va être pire.
Allez, viens, c'est là, son bureau.
Non, pas tout de suite. Je crise.
Justement, c'est une spécialiste des crises. Elle est là pour ça.
Attends, je me calme.
Ok, on s'assoit, cool.
J'espère qu'elle va pas sortir et nous trouver là par terre, la honte. Et
justement, elle verrait bien que t'es au bout de ta life. Franchement, Sabrina, laisse tomber, c'est grave ce qu'il te fait. Il raconte des trucs sur toi, il t'empêche de travailler, de dormir, la tête que t'avais en arrivant. Il est jaloux parce que t'as les mêmes notes que lui. Mais franchement, tu devrais pas t'habiller comme ça.
Pourquoi?
Pour être comme nous, en t-shirt, en basket. Des trucs moins voyants. Ta mère, elle est hippie ou quoi?
Laisse ma mère. Déjà que je lui mens pour pas lui faire de la peine.
Elle doit bien s'en douter, hein. Les mères, ça voit tout. Bon, on frappe. J'ai mal au huc, là, sur ce carrelage.
Mais je sais pas quoi dire.
Ben, ce qu'on a dit.
Je vais pas lui dire que tu sors avec Guillaume.
T'es grave, c'est hors sujet.
Entrez.
Bonjour madame, on vient parce que Sabrina voudrait vous parler.
Bonjour, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive, Sabrina?
C'est Guillaume.
Sabrina, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est Guillaume.
Avec laquelle des deux?
Avec Sabrina, il la victimise, madame.
Tu es d'accord, Sabrina?
Oui.
Vous aviez cours, je suppose?
Oui, madame. Oui, madame.
Mélina, il faut que je parle seule avec Sabrina. Tu peux retourner en cours. Je te remercie d'avoir accompagné ton amie.
Madame, il me faut un billet pour retourner dans la classe.
Bien sûr. Tiens.
Merci. Au revoir, madame.
Alors, ce Guillaume,
j'arrive plus à le sortir de ma tête. Il m'appelle la nuit pour m'injurier. Après, j'arrive plus à dormir. Il me bouscule dans les couloirs. Et il me fait toujours des remarques sur mon look. Et pendant un cours de sport, il est allé mettre mon sac sous une douche. Et ce matin, il a pris mon classeur de SVT avant de rentrer en cours. Et j'ai pas osé le dire à la prof. Il poste des photos de moi sur Facebook pour se moquer de moi.
À ton avis, il fait ça pourquoi?
Je sais pas, c'est ça le pire. Je lui demande tout le temps, il me répond que c'est juste parce que je suis trop conne. C'est de ma faute, je suis trop timide.
Mais non, Sabrina, c'est lui le problème, pas toi. Il ne faut pas t'accuser. C'est du harcèlement, il faut le nommer. Depuis combien de temps il te harcèle?
Depuis que je suis arrivée, 3 mois.
C'est un élève très charismatique et brillant. Il a pris le pouvoir sur toute la classe. Une sorte de dictateur.
Oui, il veut être président de la République.
Quand tu es arrivée, il a eu peur que tu le dépasses avec tes très bonnes notes. De perdre son pouvoir, tu comprends?
Oui, madame, mais j'ai peur que ça soit pire si je le dis au prof et à ma mère.
On est là pour te protéger et le sanctionner. Il faut nous le dire dès qu'il se moque de toi, t'insulte, te menace, dégrade tes affaires, envoie des photos sur Facebook. D'accord? Tu me promets, Sabrina?
Oui, madame.
Je te fais un billet pour rentrer, même si c'est la fin du cours. Je demande à la prof de SVT que Guillaume te rende ton classeur devant toute la classe.
Oh, oh là là, non. J'ai peur qu'ils s'en prennent encore plus à moi, madame.
Ne t'inquiète pas. Je vais en parler au prof et au directeur. Au revoir, Sabrina. Reviens me voir dès que tu veux.
Oui. Au revoir, madame.
Le problème, c'est que les enseignants et le directeur sont parfois autant dans le déni que le harceleur. Pas facile de déceler et de nommer le harcèlement. Surtout avec un élève brillant. Dans certains cas, la limite entre un pouvoir charismatique et un harcèlement est ténue. Et forcer le harceleur à le reconnaître est contre-productif, puisqu'il est dans le déni. Il faut ruser. Lui dire, par exemple, « Guillaume, j'ai entendu dire qu'il y a un problème avec Sabrina. Qu'est-ce que tu en penses ?» Mais se méfier, car ce Guillaume est très malin.
Non, non, je retourne pas en cours. C'est la honte, ce billet. Je suis même pas capable de récupérer mon classeur toute seule. Je vais être la risée de la classe. Madame, j'ai pas pu revenir en cours parce que j'ai...
Alors, Sabrina, on va voir la psychologue dès qu'on est puni?
Non, c'est pas pour ça.
Je comprends pas ton comportement. Tes notes sont en train de chuter. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina?
Rien, madame.
Tu diras à ta maman que je veux la voir. J'ai des questions à lui poser.
Je lui dirai, madame.
Alors, on sèche le cours de SVT?
C'est à cause de toi, espèce de malade.
T'entends ça, Mélina?
Laisse-la, arrête de la harceler.
T'es aussi conne qu'elle. Tu répètes comme un perroquet les mots de la psychologue.
Guillaume, t'arrête, sinon je sors plus avec toi.
Allez, viens. On a d'autres choses à faire.
Je t'appelle ce soir, Sabrina. À toutes.
J'ai voulu me tuer. En quelques secondes, j'ai pensé à maman. À tout le mal que j'allais lui faire. À la vie qui est belle et moche à la fois. À mon père que je voudrais bien revoir. À Mélina, même si elle m'a trahi. Aux études que je veux faire pour être chercheuse. À l'amoureux que je rencontrerai. Je suis arrivée en larmes à la maison.
Thank you.
Maman! Maman, je t'aime!
Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille?
Je t'aime. Je veux vivre avec toi.
Bien sûr. Il n'est pas question que tu ailles vivre chez ton père pour l'instant.
C'est pas ça.
Et là, j'ai tout raconté depuis le début. Les moqueries, les insultes, les humiliations, les menaces. Ma mère a envoyé des mails à tous les parents. Ça a été encore pire. Je me suis fait traiter de balance. J'ai changé de vêtements pour plaire à Guillaume. J'ai mis des jeans, des t-shirts sombres et des baskets, comme tout le monde. Ça n'a rien changé. C'est son regard sur moi, même quand il disait rien, qui me hantait. Il me traitait de queen pour casser ma seule relation dans la classe avec Mélina. Petit à petit, je me suis laissée couler. Je disais à ma mère que ça allait. Le lycée était dans un grand terrain, avec un bois. Un jour, on a joué aux gendarmes et aux voleurs. Guillaume avait pris un bâton. Il me tapait. Au départ, je rigolais.
On fait deux camps. Les gendarmes prennent un bâton. Qui veut être gendarme? Moi.
Aïe. T'es ouf, Guillaume, quoi? Ça fait mal.
C'est normal, je suis gendarme.
T'es malade, pas sur la nuque!
Sale voleuse!
Arrête, Guillaume, t'es grave psychopathe!
Je savais bien que t'étais une putain de voleuse!
Stop! Stop! On joue plus avec Sabrina! On est que deux voleuses, c'est pas la règle!
On s'en fout des règles! Y'en a pas chez les Cro-Magnons! Allez, tapez! N'ayez pas peur, bande de Cro-Magnons! Faut punir les voleurs!
Tu vois pas qu'elle est par terre?
On l'a eue! En cabane! Au tarmis!
Sabrina! Sabrina! Elle bouge plus!
Elle le fait exprès, cette salope.
Mais non, elle saigne. Vite, quelqu'un appelle l'infirmière.
Fais-le, toi. Putain, elle a fait exprès.
Tu m'as fait peur.
J'ai fait exprès de plus bouger, sinon il me tuait.
Tu devrais retourner en cours. On les voit pas, tes pansements.
Non, j'ai la honte.
Guillaume va se calmer. Le directeur a mis un avertissement à toute la classe. Il va mettre des grilles pour qu'on aille plus dans le bois.
Dommage. J'aimais bien, moi, cueillir des violettes. Tu vas continuer à sortir avec lui?
J'ai rompu. Je sors pas avec un psychopathe. Allez, viens, on retourne en cours. On va pas lui faire ce plaisir.
T'as raison, il va encore avoir les meilleures notes. Attends, regarde. Regarde, il m'envoie un SMS avec des cœurs pour s'excuser. Je regrette ce qui s'est passé. J'ai mal géré, je m'excuse.
Il est peut-être pas aussi ripou qu'on pense.
Tu crois? Non, c'est trop tard. La psychologue m'a dit de m'éloigner le plus possible de lui. Je voudrais changer de lycée carrément.
Il soigne peut-être son image?
Ne plus le voir, c'est la seule solution. Il a ensorcelé les profs avec ses discours de premier de la classe et son sourire d'acteur américain. Toi aussi, t'as vampé avec ses belles paroles.
C'est fini. Enfin...
T'as pas l'air sûre.
Si, si. Mais faut que je m'habitue. Ça date d'une heure à peine.
Tu vois que c'est pas si simple. Pour toi, pour moi, pour les profs et même pour le directeur. Quand on est ensorcelé... Il faut se faire exorciser comme au Moyen-Âge.
T'as de la fièvre ou quoi? Allez, viens, on va travailler, on n'y pensera plus.
Attends, attends, t'as vu ce qu'il m'envoie? En fait, je te kiffe, c'est pour ça que je suis tout le temps après toi. T'es pas conne, au contraire.
Laisse tomber.
On sait jamais si c'est sincère ou pas avec lui.
Laisse tomber, je te dis. Écoute plutôt la psychologue.
Il a peut-être compris.
Il fait semblant, ne tombe pas dans son piège.
Les sentiments, c'est compliqué, hein. Des fois, on pense une chose et le lendemain, on pense le contraire.
Ouais, là, c'est énorme. Si tu craques, je te cause plus. Tu vas pas sortir avec ton bourreau.
J'ai pas dit que j'allais craquer. Encore un SMS. Je me suis grave trompée. Est-ce que tu veux sortir avec moi?
Oh, t'es trop lourde, je retourne en cours.
Je suis restée toute la journée à l'infirmerie. Il arrêtait pas de m'envoyer des SMS. Ça me faisait du bien, je me sentais enfin exister. Ça allait être la fin de tous mes malheurs. Il m'a donné rendez-vous dans une bibliothèque pour travailler sur notre dissertation. Le sujet était « Pensez-vous que la souffrance est nécessaire à la poésie ?» Ça tombait bien pour moi. Mais j'avais plus envie de souffrir. C'était drôle parce que on était obligés de se parler tout bas et très proche. Ça faisait comme une bulle d'intimité.
Je pense que pour être poète, faut avoir une bonne dose de souffrance. T'as les yeux verts bordés de noir, comme une huître. C'est rare.
C'est de toi?
Oui.
C'est grave poétique. Tu souffres alors?
Je souffre de t'avoir fait du mal.
N'y pense plus. Moi, je veux plus souffrir alors. Je serai jamais poétesse.
Pourtant, t'es douée.
Ou alors, une poétesse joyeuse comme Raymond Queneau.
C'est parce qu'il souffrait qu'il écrivait des choses drôles. Il paraît que les clowns sont tristes.
Comme toi.
Pas si tu veux bien sortir avec moi. Je te kiffe vraiment.
Faut que je réfléchisse. J'ai peur que tu me fasses encore du mal.
J'ai honte. Je vais t'écrire un poème ce soir. J'ai des dizaines de cahiers de poèmes. Je crois que j'ai jamais autant kiffé une meuf.
Alors pourquoi tu m'insultais?
Parce que je souffrais.
C'est pas une excuse, ça.
Alors tu veux? Dis oui.
Je te le dis demain.
Non, ce soir. À minuit pile.
Pourquoi à minuit pile?
Parce que je peux pas vivre une autre journée sans toi.
Bon, faut que j'y aille. Ma mère va s'inquiéter.
Je te raccompagne.
Non, pas jusqu'à chez moi. Je veux pas qu'elle me voie avec toi. À minuit, je lui ai dit oui. Il m'a lu son poème. C'était très beau. Alors je lui ai pardonné. J'étais trop heureuse. Au bout de quelques semaines, il est devenu grave insistant.
Allez, dis oui. T'es trop belle avec ce petit haut.
Oh, t'es lourd.
T'es plus amoureuse?
Si, mais laisse tomber.
T'es qu'une menteuse, tu me kiffes plus.
Si, mais j'ai pas envie. Insiste pas.
T'es en mode coincé. Toutes les meufs font des selfies les seins nus.
Je suis sûre que non.
Tu sors plus avec une fille coincée.
Et moi avec un relou. Il m'a plus causé pendant une semaine. Mélina m'a dit qu'elle le faisait souvent pour son amoureux, qu'elle prenait des pauses, comme dans les magazines. Je trouvais ça ridicule. Et finalement, j'ai craqué. J'ai pris des pauses de vamp. On aurait dit des vieilles cartes postales d'autrefois. Je me trouvais belle, finalement. Le lendemain, j'ai retrouvé toutes les photos sur Facebook. La honte de ma vie. C'était plus possible que je retourne au lycée. J'ai dévalisé la pharmacie de ma mère en somnifère. Je me suis retrouvée aux urgences. Lavage d'estomac. Et tout le truc. Ma mère a été cool. Elle a tout fait pour que Guillaume passe en conseil de discipline. On avait la rage. Je suis allée en convalescence à la campagne, chez ma grand-mère. J'ai beaucoup réfléchi en regardant les vaches broutées. À la rentrée, on a déménagé près de chez ma grand-mère. Et je suis allée en première dans un autre lycée où je me suis fait tout de suite beaucoup d'amis. J'étais vraiment tombée sur un malade. Grave. Depuis, j'ai appris que j'étais pas la seule à avoir été victime de harcèlement au lycée. Faut que tout le monde en parle. Sinon, ça te pourrit ta life.
C'était « Jeux dangereux » de Nicole Sigal. Avec Marie-Lou Ossillou, Salomé Dianis-Melien, Étienne Galarague, Nicole Sigal, Marie Micla, Marina Moncade. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Antoine Espel. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff.
Si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh.
On vit l'époque du virtuel. Des tutos pour du rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des emojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, 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 oh.
Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres.
Affaires sensibles, la fiction.
Les harceleurs, ce sont des personnes qui, à terme, vont perdre. Faut pas l'oublier. Il y a une très belle recherche qui a été faite par David Farrington et Maria Toffi. Ce sont les plus grands criminologues du monde, peut-être. Farrington a été le patron de la criminologie à Cambridge. Il a suivi pendant 40 ans un groupe de près de 500 harceleurs dans la banlieue sud de Londres. Il a montré 40 ans après que les harceleurs étaient beaucoup plus que d'autres au chômage ou avec des jobs mal payés. Beaucoup plus que d'autres étaient maltraitants de leur couple ou maltraitants par rapport à leurs enfants. Et 40% avait fait un séjour par la casse-prison. Donc, il faut bien se dire que la loi du plus fort, c'est une loi totalement dérisoire. Et qu'il faut aider les harceleurs. Alors, comment punir avec des peines qui ne soient pas éducatives? Quelquefois, il faut le faire. Mais il y a quand même toutes les pratiques de justice réparatrice. C'est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire, il faut faire comprendre au harceleur ce qui s'est passé. Il faut le faire réparer et le réparer en réparant. Alors, ça peut être effectivement des travaux d'intérêt généraux. Ça peut être des tâches éducatives. C'est essentiel.
J'ai une méthode qui consiste en une série d'entretiens avec les élèves harceleurs et on cherche avec eux individuellement, toujours, jamais en groupe, on cherche avec eux quelle est la solution qu'ils pourraient trouver pour aider l'élève qui est harcelé. Alors c'est étonnant parce que ils s'attendent à ce qu'on les sanctionne, ils s'attendent à ce qu'on les culpabilise, alors ils disent, alors fassent là une leçon. Pas du tout, pas du tout. On leur dit voilà, on m'a informé de la situation d'un élève qui va pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Immédiatement, dès qu'il a reconnu que l'élève était en difficulté, on lui dit mais alors qu'est-ce que vous pourriez suggérer vous-même pour que ça se passe mieux pour lui, pour qu'on ne se moque plus de lui? Et on s'aperçoit que des solutions émergent, parce qu'il faut pas s'imaginer que les harceleurs sont des méchants, des pervers. Non, ce sont des enfants qui se laissent aller à des comportements de groupe.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui jeu dangereux, notre invité Magali Crochard, psychosociologue de l'éducation. Bonjour Magali Crochard.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignante et chercheuse en sociologie de l'éducation et de la formation.
Oui.
Aujourd'hui, vous menez des recherches actions, notamment à la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement, où vous concevez, vous évaluez des dispositifs de prévention de la violence entre pairs, PAIRS, hein, oui. Entre gosses, quoi, oui. En milieu scolaire. On va en parler. Je voudrais vous donner le contexte des deux archives que nous venons d'entendre. La première est extraite du téléphone sonne de France Inter. C'était le 9 février 2015, Éric Debarbieux, délégué ministériel, chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, professeur en sciences de l'éducation, s'intéresse au problème depuis 25 ans, oui. Et donc il témoigne. Et puis dans la deuxième archive, on a entendu Jean-Pierre Bellon, professeur de philosophie, et avec son association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, il propose des formations pour aider les personnels de l'éducation nationale. Il appelle à s'intéresser, alors non plus seulement aux victimes, mais aussi aux harceleurs. Deux approches pas si différentes, finalement, parce qu'il y a même volonté de réfléchir à la situation, réfléchir à la punition dans la première archive, et la volonté de travailler avec les harceleurs dans la seconde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'en pensez-vous?
Je pense que ce sont deux positions complémentaires et qui renvoient à deux approches différentes. L'une groupale et contextuelle, qui considère, alors en résumant un peu la chose, que le harcèlement est un phénomène de groupe, que les rôles peuvent tourner entre harceleurs, témoins, harcelés, et met l'accent, cette approche contextuelle met l'accent sur, en effet, le phénomène de groupe et le bouc émissaire.
Eh oui.
L'approche plus individualisante, peut-être plus psychologisante, qui a été portée par Dan Olweus, qui est le premier européen, un professeur norvégien, qui déjà en 1973 mettait l'accent sur la nécessité de regarder ce phénomène de harcèlement entre pairs et de ne pas le regarder qu'à travers la psychologie de groupe, c'est-à-dire le phénomène d'entraînement qu'on connaît bien et dont on sait qu'il est évidemment qu'il a cours à l'adolescence notamment.
Moi, je me dis, quand je vois certaines cruautés, parce qu'il y a aussi une cruauté envers les victimes, et notamment lors du phénomène de groupe, et pas seulement, mais surtout, je me dis que finalement, les gosses ne sont pas autre chose que des futurs adultes.
Oui, et c'est bien la raison pour laquelle la question de la sanction est au cœur des dispositifs de harcèlement. Il s'agit évidemment de libérer la parole et de protéger la victime. Alors, c'est peut-être ce qui peut faire réagir par rapport aux méthodes qui sont strictement axées sur la médiation entre pairs. C'est de passer à côté de la dimension sanctionnante qui est évidemment nécessaire.
Et qu'ils retrouveront quand ils seront adultes.
Absolument.
Donc, il faut les y préparer.
Absolument, et je crois que le rappel du cadre nécessite de la part de la communauté éducative, parents, enseignants, chefs d'établissement, directeurs d'école, mais aussi institutions, associations partenaires de l'école. Ça nécessite, je crois, de nous interroger en tant qu'adultes sur notre propre seuil de tolérance de la violence. Et pourquoi passerait-on à un adolescent ou à un jeune enfant un comportement que nous jugerions tout à fait inadapté dans la vie citoyenne adulte que l'on vit au jour le jour. Donc je crois que ça nécessite de se poser la question collectivement, de façon collégiale, mais aussi individuellement sur notre représentation de la violence et notre seuil d'acceptation de celle-ci.
Alors, puisque vous parlez de seuil d'acceptation, il est évidemment pas acceptable du tout de voir des gosses, des gamins ou des ados souffrir avec cette double peine de la souffrance et de l'isolement. Parce que je vais pas faire de parallèle qui serait pas adapté, mais je pense aux violences faites aux femmes, par exemple. Il y a une double violence dans la mesure où parfois elles n'osent pas aller se plaindre. On retrouve ça avec les enfants.
Alors on va le retrouver dans les situations en effet de harcèlement, puisque le harcèlement ne peut s'installer que en l'absence d'une première réponse efficace à une première agression.
Oui.
Et il est vrai que le parallèle que vous faites avec les violences notamment conjugales, qui relèvent le plus souvent d'une relation d'emprise, d'une volonté de pouvoir sur autrui, eh bien renvoie à des mécanismes qui ne sont évidemment pas totalement comparables, mais dont on peut se dire qu'il y a quand même cette notion de pouvoir au cœur de cette relation toxique, qui nécessite de réagir de façon...
Oui, parce que ça rend la plainte difficile aussi,
cette
emprise.
Mais parce que le sentiment de honte est souvent éprouvé par la victime de harcèlement, et d'ailleurs, quel que soit l'âge de la victime, de celui qui est harcelé, qu'il ait 9 ans, 10 ans, 15 ans, évidemment, le harcèlement s'appuie et se nourrit de ce sentiment de honte, et de fait, du silence que la victime s'impose à elle-même.
Et de déclassement social.
Et de déclassement, oui, oui, de déclassement social.
Dans une enquête commandée par l'organisme Place de la Médiation, à la question « Êtes-vous victime de harcèlement scolaire ?», 68% répondent « Oui », alors qu'il n'était, si j'ose dire, que 53% en 2017. Ça veut dire qu'il y a une progression. Pourquoi ?
Alors, je ne sais pas si on peut en déduire qu'il y a une progression du phénomène. Ce qui est certain, c'est que depuis, alors, les travaux d'Éric de Barbieux, évidemment, et puis depuis la loi de refondation de l'école de 2013, on en parle beaucoup plus. Alors, la question, c'est est-ce que...
Il y a un effet de loupe.
Oui, il y a probablement un effet de loupe. Et puis, toutes les campagnes autour de la parole, autour de l'invitation, de cette invitation à dire les choses, je pense... alimente forcément ce pourcentage. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que les élèves harcelés sont de plus en plus nombreux. Ce serait une erreur d'interprétation. En tout cas, oui, la conclusion serait probablement un biais.
Est-ce que... oui, je sais. Bien sûr que parfois, ça peut aller au suicide.
Oui, alors, absolument.
On est vraiment dans le cas extrême. Il y en a eu beaucoup.
Oui.
Dites-nous.
Alors, la morbidité liée au harcèlement en milieu scolaire est toujours également très difficile à établir. Vous le savez, les raisons...
D'un suicide sont intimes.
Absolument.
Souvent,
hein, difficile. Et c'est souvent ce qui est opposé d'ailleurs aux parents ou aux proches. C'est ce caractère qui n'est pas monocausal. Mmh. C'est-à-dire que ce passage à l'acte est extrêmement difficile à interpréter. Néanmoins, les situations qui ont été médiatisées ces 5-6 dernières années sont absolument terribles et nécessitent ont donné lieu à non seulement des prises de conscience, mais aussi des priorités à la fois ministérielles et de très nombreux chefs d'établissement, directeurs d'école et enseignants cherchent à véritablement mener un travail de fond, de terrain, avec leurs élèves, avec les parents, puisque souvent les parents sont... on n'entend pas beaucoup les parents d'élèves représentés ou non sur ce champ-là, alors que je pense...
Ils sont extrêmement concernés.
Ils sont les... Mais bien
même,
sûr.
Ils sont... Même les secondes concernées. Les premiers,
oui,
c'est les victimes.
Sont leurs enfants.
Ouais.
Ils sont évidemment les deuxièmes les plus concernés et l'école républicaine française a parfois du mal à les faire entrer à l'école, à les faire venir. Mmh. Et donc tout le courant lié à la coparentalité est un courant qui invite justement à cette collégialité, à imaginer la communauté éducative de façon élargie pour parler de ce qui fâche, mais de façon apaisée. Et en amont des situations, donc de faire de la prévention primaire plutôt que tertiaire.
Ça veut dire qu'il faut aussi briser les tabous. Je parlais de tabous tout à l'heure.
Oui, oui. Moi, j'ai pas peur de le dire. Nous sommes nombreux à penser que nous avons été dans un déni en France jusqu'en 2010-2013. Un déni, alors, qui s'explique de façon différente, mais nous étions nombreux à considérer que la violence en milieu scolaire concernait principalement la sécurité des établissements, mais sécurité mise en danger par des phénomènes extérieurs.
Oui.
Donc, intrusion dans les établissements.
Oui,
et de façon à ne pas forcément regarder les modes de socialisation qui sont et qui peuvent
être... Les problèmes endogènes, quoi.
Voilà, endogènes, et puis tout ce qui touche à la socialisation entre pairs, à cet apprentissage de la relation qui n'est pas simple, et les enseignants ne sont pas formés. Quand on est enseignant en sciences physiques dans un lycée aujourd'hui, ou bien on étudie les sciences physiques, on passe son CAPES de sciences physiques.
Je vois où vous voulez en venir.
On arrive à une formation en effet de maître en SP, et le harcèlement, les modes de socialisation à l'adolescence, ce sont parfois totalement absents des programmes qui dépendent de ces établissements, qui dépendent eux-mêmes des universités au sein desquelles ils sont dispensés. Donc chaque président d'université peut avoir aussi le libre choix d'intégrer ou non cette dimension psychosociale à la formation initiale des maîtres, des enseignants, donc premier ou deuxième degré. Et ouais, peut-être que là, il y a une piste d'action, une piste de réflexion à avoir.
Magali Crochard, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à explorer notamment les solutions, parce qu'on va essayer de passer aux solutions, c'est ça qui est important maintenant qu'on a
absolument
fait le constat. À tout à l'heure.
Tears are filling up their glass. drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your
Magali Crochard, nous avons établi le constat, passons aux solutions. Le terrain d'abord, le terrain toujours, le terrain encore.
Oui, la formation professionnelle, à la fois des enseignants, et puis les interventions, des dispositifs qui fonctionnent très bien. On sait aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, que plus tôt on aborde cette question des habiletés psychosociales, c'est-à-dire du rapport à l'autre. Les compétences psychosociales ont été fixées par l'OMS au début des années 80. Parmi elles, exprimer son ressenti, communiquer clairement, identifier, gérer ses émotions, avoir de l'empathie pour les autres. Ce sont des compétences psychosociales auxquelles on peut tout à fait former à la fois les élèves, mais aussi les enseignants, les formateurs, et informer les parents sur la nécessité de travailler avec les enfants, leurs enfants, au développement de ces compétences psychosociales.
Les réseaux sociaux, forcément, amplifient le phénomène.
Oui. Oui, oui.
De quelle façon et avec quelles conséquences?
Alors, le cyberharcèlement, pour parler de façon très, très claire, s'appuie la plupart du temps sur un harcèlement déjà vécu dans la vraie vie. Donc, ça veut dire qu'on est face à une multi-victimation, en quelque sorte. Donc, là, je crois qu'il y a un problème de société qu'il faut regarder en face. C'est-à-dire que les hébergeurs n'étant pas responsables du flux de contenu qui passe sur leur plateforme, il faut réfléchir soit à un nouveau statut, c'est-à-dire d'éditeur, pour renforcer la responsabilité de ces plateformes qui laissent passer des insultes, des photomontages, de l'humiliation en ligne, et responsabiliser évidemment les parents et les jeunes. On sait très bien que l'âge d'accès à des réseaux sociaux qui est fixé à 13 ans n'est absolument pas respecté. Je n'ai absolument pas à juger cela puisque j'ai des enfants, donc je ne me pose pas en juge, mais je pense qu'il y a un travail d'éducation aux médias et notamment aux réseaux sociaux, à mener de front, à la fois auprès, encore une fois, des élèves, mais dans une dynamique de coparentalité, en intégrant les parents, pour ne pas qu'ils se sentent évidemment dépossédés de leur autorité parentale et de leur position.
Quelles sont les causes de harcèlement? Alors, vous allez me dire, elles sont multiples, mais à quel moment, pourquoi, un moment donné de sa vie, quand on est gamin, ou un peu plus, adolescent, on se retrouve victime et non bourreau. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi? C'est la différence, par exemple, si on affiche une différence, ça suffit?
ça peut suffire.
Pas forcément racial, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Mais la stigmatisation, ou ethnique, hein. La différence, en effet, peut tout à fait avoir un effet levier sur le harcèlement. Mais moi, j'insiste vraiment sur la non-réponse ou l'inefficacité de la réponse apportée à une première agression, qu'elle soit verbale, ouais, qu'elle soit physique, et qui va permettre au harceleur, à l'agresseur, de s'intéresser à la situation et de poursuivre ses attaques, et finalement d'en éprouver une forme de plaisir, parce que c'est ça, c'est pour ça, le harceleur, s'il est harceleur, il se réveille pas un matin en se disant « tiens, je vais harceler », c'est parce qu'il y trouve là une source de plaisir.
Il se rassure aussi peut-être, s'il le fait dans le groupe, il se rassure aussi. Je fais partie du groupe, donc je suis du côté du plus fort.
Et absolument, bien sûr. Et évidemment, M. Bellon et comme Éric de Barbieux le disent très bien, c'est-à-dire qu'il faut agir sur les deux, et voire même sur les trois. C'est-à-dire le harceleur, le harcelé, mais aussi tous les témoins qui peuvent être parfois actif, donc participer véritablement à cette meute, hein, à ce mobbing.
Et c'est une meute, bien sûr.
Et les témoins qui sont passifs, et encore une fois, ce sont les plus nombreux. Et les dispositifs que je conduis avec la Fédération Paris, la Ligue de l'Enseignement, vraiment cherchent à travailler sur ces témoins passifs pour ne plus les rendre passifs et pour les inviter à se considérer comme, eh bien, des témoins des témoins d'un délit potentiel et inviter à la responsabilité de la non-dénonciation.
Ah, c'est ça. Est-ce ne va pas jusqu'à la dénonciation. Est-ce que vous leur parlez de non-assistance à personne en danger?
Bien sûr, puisque l'entrée par ce que fixe le législateur et le droit, c'est le meilleur moyen pour les amener à considérer la société dans laquelle on vit.
Bien
et ses codes et ses règles. Absolument,
ouais,
absolument.
Et notamment parmi ces codes, l'assistance à personne en danger, elle est obligatoire.
Absolument.
Dans ce pays. Est-ce que, alors, peut-être que ce sont des chemins un peu tortueux, mais est-ce que le fait d'avoir été tout un chacun, adulte, équilibré que nous sommes aujourd'hui, on a peut-être été tout un chacun embarqué dans une forme de harcèlement de groupe, alors pas aussi violente que ce qu'on dit, parce qu'il y avait un élève qui était différent des autres, et puis après on a des remords, on se dit, quand j'étais gamin, j'étais cruel aussi, ça peut être un antidote à la délinquance et à ne pas respecter les règles, justement.
Oui.
On peut aussi passer par là. Je sais pas, c'est un petit peu tortueux, mais...
Non, mais on peut tout à fait passer par là. Vous savez, on apprend chemin faisant.
Oui.
À avoir une relation saine à l'autre. Donc, on peut tout à fait, au contraire. Là, ce dont vous parlez, c'est un peu la culpabilité de l'adulte qui regarde dans le rétroviseur. Et c'est tout à fait intéressant. Je pense, en revanche, que sur le terrain, un discours portant sur la culpabilité de l'auteur est inefficace.
Oui, peut-être contre-productif.
Absolument contre-productif. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le terme de responsabilité. Parce que le harceleur, si nous sommes véritablement sur une situation de harcèlement, le harceleur est assez hermétique à la culpabilité. Hein, on appelle ça une difficulté d'accès.
Sinon, il ne serait pas harceleur, c'est ça ?
Sinon, il ne serait pas harceleur. Et donc, travailler plutôt sur la responsabilisation, puis sur le développement, évidemment, de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, compétences, enfin, habileté relationnelle, habileté psychosociale, me paraît beaucoup plus efficace que d'agir uniquement sous la forme d'un discours moral.
Oui, bien sûr. Merci en tout cas, merci infiniment Magali Crochard de m'avoir et nous avoir accompagnés sur ce territoire qui est celui de la psychologie, qui est parfois compliqué. Hein. Faut être éclairé, vous l'avez fait, je vous en remercie.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeux dangereux, une fiction écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Alnioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Pierre-Yves de Rolin et Guillaume Roux.